Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre.
Rencontre avec. Lors de la nuit d'Irène Frein. J'ai rencontré Irène Frein à Faites Lire et je l'ai interviewée en direct grâce à la FRAMA, la Fédération Régionale des Radios Associatives Maine-Anjou.
Merci chère Irène Frein d'avoir accepté mon invitation. Je me permets de vous appeler ainsi affectueusement parce que je fais partie de la communauté de vos lecteurs qui vous lisent assidûment et vous voient comme une conteuse qui répare avec ses histoires. La dernière fois que je vous ai rencontrée, c'était pour Écrire est un roman et comme une fée, vous m'avez donné le courage d'écrire à mon tour. Vos livres sont remplis d'histoires qui font rêver et réparent, mais aussi vos livres sont très érudits, sans jamais être pédants. Aujourd'hui, vous venez présenter « Lors de la nuit », paru chez Julliard, qui raconte l'histoire de la traduction « Réinvention » par Antoine Galland des « Mille et une nuits », dont tout le monde connaît au moins un conte, par exemple Aladdin. Grâce à vous, j'ai découvert Antoine Galland. Pouvez-vous nous dire qui est Antoine Galland ?
Antoine Galland, c'est un homme issu d'un milieu d'une pauvreté inouïe au XVIIe siècle, assorti de rien, comme on pourrait dire, comme était mon père d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que je me suis intéressée à lui. Il a été pris en main par un ecclésiastique un jour que sa mère mendiait à la porte d'une cathédrale comme celle-ci, en pleine famine. Et cet ecclésiastique a compris qu'il était un surdoué. Donc il a pris sous son aile. Et en fait, Galland a dépassé ses espérances et il a parlé très tôt latin, grec ancien, hébreu. Il était extraordinairement doué en tout. Et du coup, on l'a envoyé faire des études à Paris, c'est ce qui était extraordinaire. Le gamin, il est parti à 14 ans à pied. Il ne voulait pas faire ce que voulait sa mère, c'était être menuisier, ce qui est un beau métier aussi. Et il a gagné Paris, il a été inscrit dans un collège proche de la Sorbonne, où également, comme on disait autrefois, il a fait des étincelles. Et il a été très remarqué. À un moment, il a appris l'arabe, comme ça, avec un professeur qui connaissait l'arabe. Et du coup, quand il a été envoyé pour une mission à l'ambassade de Constantinople. Il a fait deux longs séjours en Orient, de la Turquie à la Palestine, ce qui est l'actuel Liban, la Syrie, jusqu'aux confins de la frontière égyptienne. Il n'a pas pu aller plus loin. Il était évidemment avec des ambassadeurs, etc. Il est allé aussi en Grèce avant que le Parthénon soit mis en pièces par les Turcs. Et puis, il s'est illustré dans tous ses voyages en Orient pour acheter ou trouver des monnaies antiques, des antiquités de la Grèce et la Romanité, également des vieux manuscrits, un peu tous les manuscrits que vous pouvez trouver après la chute de Constantinople. C'était pour des grands, riches membres du pouvoir de Louis XIV, comme Colbert. Et finalement, il a été pris dans un tremblement de terre, ce que je raconte au début du livre, ce qui a été un traumatisme, mais il a tout perdu. Et il est rentré en France. Et là, il a travaillé pour un intendant, toujours la même chose, chercher des monnaies, etc. Et un jour, qui cherchait des manuscrits pour ce riche intendant, ce riche à crever, qui un peu comme Fouquet, vous voyez, qui faisait des collections. Il est rentré chez un marchand arménien ou syrien, ou les deux à la fois, qui vendait des épices, des soieries, du café, c'est la mode du café. Et cet homme faisait du trafic de manuscrits. Il lui a tendu un manuscrit. Et Et Galan a trouvé que c'était pas très cher. Donc, au lieu de l'acheter pour son patron, il l'a acheté pour lui. Et il s'est dit, je vais traduire le soir. Et quand il a commencé à traduire, il traduisait plus, en fait.
Oui.
Il était dans un autre monde, comme s'il avait été transporté dans un monde de merveilles. C'était l'histoire d'un marin de Bagdad. Et en fait, il venait de tomber sur le manuscrit de Sinbad le marin. Alors, il l'a traduit. Et au moment où il envisageait de le faire publier, il est retourné chez ce marchand qui en avait 4 autres. Et il les a achetés de la même façon pour lui. En fait, il trahissait un peu son patron. Il mettait toutes ses économies dans ses manuscrits. Il a commencé à le lire. Et là, c'était encore plus hallucinant. Il a été transporté, mais au-delà de tout. Et c'était des contes qui étaient censés être racontés par une certaine Scheherazade.
Oui.
Et là, ça a été inouï. Et donc, il est allé à Versailles où il est allé voir une femme qu'il avait connue à l'ambassade de Constantinople, dont il avait été secrètement amoureux.
La marquise d'Eau.
La marquise d'Eau, elle s'appelle vraiment comme ça, pour le livre Histoire d'Eau, avec un O, très ouhou, etc. Et en même temps très intrigante. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire en disant ouhou. Et aussi intrigante que son mari. Un peu libertine, quoi. Et cette femme était très puissante, puisqu'elle intriguait. Elle renseignait Madame le Maintenon sur les extravagances de la petite fille de Louis XIV, qui était déjà un genre de petite Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, elle n'a jamais rien inventé, oui. Un genre de dépenses et folies diverses et variées. Et son mari, lui, il surveillait la famille royale qui intriguait contre Louis XIV, dont on pensait qu'il allait bientôt mourir. Donc c'était genre Dallas à Versailles. C'était un drôle de monde, Versailles, c'est redoutable. Alors donc elle était très puissante et elle avait surtout le pouvoir de dire au censeur de donner l'autorisation de publier. Et donc, ces contes des Mille et une Nuits, certains étaient également houhou.
Oui, un peu licencieux.
Oui, plus que ça. Enfin, oui. Ça commence les Mille et une Nuits par une gigantesque partouze, quand oui. même, avec des esclaves de la femme du sultan.
Oui, hein. C'est ce que vous dites. Oui.
Voilà, j'ai même reproduit la traduction exacte des mots arabes.
Oui.
Je les ai mis entre guillemets, hein, c'est pas moi qui parle. Et donc, là, évidemment. Galan avait fait une traduction qui était laissait comprendre tout ce qu'il fallait comprendre, mais en étant
moins sulfureux.
Moins sulfureuse, hein, il était parablésien, on va dire, et pas cochon, comme le texte initial. Et donc, ça a beaucoup plu aux censeurs parce que ça respectait, mais ils comprenaient. Puis, ça les excitait follement.
Oui.
Et donc, en plus, il y avait toute la fantaisie. Donc, il a publié, il a eu une idée géniale. Alors, je vous précise qu'on ne gagnait pas un sou avec les livres à l'époque quand on était auteur. On travaillait pour le roi de Prusse, c'est-à-dire le roi de Prusse, c'était l'éditeur, tout qui ramassait tout, le libraire, éditeur, c'était la même chose, il ramassait tout l'argent qui était là. Ça a eu un succès fou, mais notamment grâce à Galan qui a eu l'idée de les publier par petits fascicules. Donc, les gens demandaient la suite. Un petit peu comme dans le livre, le sultan demande la suite des récits de Scheherazade. Ce qui fait qu'on arrive à Mille et une nuits. Alors donc, ça marche follement. Mais en fait, Galan, c'est un savant. Il a été élu à l'Académie des inscriptions de Baudelaire. Et puis, au bout de, disons, 6-7 ans, ses camarades académiciens, un peu serpents, lui glisse des méchancetés. Et puis lui, il est savant, donc il perd son travail. Il est viré du jour au lendemain par l'intendant Foucault. Ça, c'est totalement exact. Il s'est retrouvé, on va pas dire avec son carton, ses cartons, mais avec sa malle, viré en 5 phrases, quoi. Hein. C'est pas seulement de notre époque. Et il se trouve dans la pauvreté et il se dit, comment vais-je continuer à vivre? Il a pas de revenus. Et il ambitionne de rentrer au Collège de France, Collège Royal à l'époque, et il faut une élection, donc il se met à traduire le Coran pour faire une édition définitive, la meilleure qui soit du Coran. Il en a les moyens. Et à ce moment-là, manque de chance. En France, crise économique terrible parce qu'il y a eu un changement climatique, vous voyez, c'est pas nouveau. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est à cause de l'émission de CO2 de plusieurs volcans ou c'est les taches solaires qui ont eu une sorte de faiblesse, mais il y a des pluies torrentielles, des gels, des étés torrides, enfin, voilà, ça rappelle quelque chose. Et on trouve plus de céréales, le prix des pains devient exorbitant, celui du vin aussi, enfin, bon, bref. Et le pouvoir lui-même est engagé dans des guerres avec toute l'Europe qui sont ruineuses. Louis XIV commence à les perdre, ces guerres. Donc il faut que l'élite ne se révolte pas non plus, enfin les gens qui lisent en tout cas, et il faut leur donner à nouveau de quoi se distraire. Et donc on dit à Galland, bon ben il faut la suite. Mais lui, il ne peut pas fonctionner sans un autre manuscrit des Mille et une Nuits. Il n'en a pas. Alors, le livre commence à ce moment-là, où il est semé de trouver un manuscrit. Il n'a pas envie. Mais Madame Do, houhou. Et donc, pour les beaux yeux de Madame Do, il se met à le faire. Mais il va le faire au moment où commence le pire hiver. Alors moi, j'avais toute la documentation sur cet hiver-là, qui est l'un des pires, absolument les pires qu'ait connu la France. Ça va générer 1,5 million de morts au total entre le froid et les épidémies. La viande avariée, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a toujours après, à cette époque-là, après les grands froids, il y a toujours des épidémies horribles et on n'a pas de médicaments, évidemment. Et lui, à 62 ans, il se lance... asthmatique, il sort pour trouver le manuscrit parce qu'il s'est persuadé que le manuscrit est à Paris. Et il se met à le chercher partout, notamment il se persuade que c'est chez un absolument saligo qui fait métier d'antiquaire, enfin bon.
Oui, oui,
et à ce moment-là, donc il se met en quête du manuscrit et en fait, le texte est presque un roman policier, mais oui. Fondé sur des faits absolument réels, parce que j'ai trouvé, d'une part, le journal de Galland à la BNF. J'ai trouvé, bon, il était, heureusement, il y avait une version imprimée, parce qu'on le voit dans le livre, les pattes de mouche de Galland, etc. Donc, je savais jour après jour ce qu'il faisait. C'est l'un des premiers journaux intimes de littérature française. Et aussi, il y avait eu des recherches sur Galland, sur ses amis, etc. Donc, à peu près tous les personnages du livre ont existé. Les dates sont les bonnes. J'ai inventé juste un personnage, la petite fille, qui est pour moi un personnage capital, parce que les contes, je pense, parlent à tous les âges. Mais le personnage de la petite fille était là pour faire comprendre ce que c'était que l'émerveillement.
Oui, face aux contes.
Et en fait... Galland, alors je ne vous dis pas la fin, mais il va quand même trouver le manuscrit, mais pas du tout sous la forme qu'il croyait.
Oui.
Et cette histoire aussi, j'ai pu la nourrir d'un autre texte, alors ça c'est fabuleux, un type syrien, jeune, perdu à Paris, qui a été mêlé à cette histoire. Et ce jeune syrien, il a été présenté, habillé en oriental d'opérette, comme un animal de foire à Versailles.
Comme ça se faisait à l'époque.
Et 55 ans plus tard, rentré dans son pays, ce qui est déjà extraordinaire, c'est un migrant paumé, quoi. Oui. Il a dicté le récit de son histoire avec, évidemment, il ne se souvenait plus de son nom, mais Galland. Et on a sous sa plume, il a peut-être écrit lui-même, hein, c'était un texte en arabe, évidemment c'est un chrétien qui était du monde arabe.
Oui.
Et quand il disait Dieu, il disait Allah. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. Parce que pour montrer que tout se mélange finalement. Oui. Et ce garçon a raconté, a été baladé jusque dans des appartements secrets de Versailles. Et quand on lit son texte, on a l'impression d'entrer dans Versailles au fond du temps du XVIIIe siècle avec une caméra GoPro sur le front. Et alors évidemment, il est de notre culture, il est de la culture de la route, des déserts, de la magie lui-même, il est naïf, et il est mystique, et il a un oncle, il vit dans un monde un peu magique, où tous les temps se mélangent, et ça c'était exact, l'approche... du monde n'était pas du tout celle rationnelle de l'Occident. Et pour moi, ça a été aussi l'occasion de faire rencontrer l'Orient et l'Occident. Et les Mille et une Nuits sont devenus mythiques. Vous connaissez tous Aladdin, Ali Baba. Oui. C'est grâce à Galan, parce que finalement, c'est là, dans la pire des situations, que vont naître les contes d'Aladdin. Et au moment où la France est dans un immense malheur, et d'Ali Baba. Et je l'ai écrit parce que je crois qu'à l'époque où nous sommes, quand on voit le succès mondial de nos jours, des Mille et une Nuits, les bandes dessinées, les dessins animés, que ça plaît à tout le monde, aux grands, aux petits, à toutes les nationalités, on se dit que la littérature a ce don, quand elle est géniale, ce qui est le texte de Galan, et au départ le texte arabe, de réunir. Alors que les hommes se séparent, s'affrontent, ne parlent plus que de tyrannie et de violence. Or, les Mille et Nuits, c'est un texte sur la tyrannie.
Oui.
Le sultan est un tyran, et c'est aussi un texte féministe, parce que Scheherazade, c'est une femme qui se bat, c'est une femme éduquée. Elle se bat parce que si elle ne trouve pas un compte le lendemain, le sultan va lui couper la tête.
Oui. Et on va la couper la tête d'autres femmes.
Voilà.
Je suis obligée de nous arrêter.
Voilà.
Et c'est
pour ça que j'ai écrit, j'en termine quand même, parce que c'est un texte aussi sur les opprimés, les Mille et une Nuits. C'est pas simplement des histoires de tapis volants, sur les pauvres, sur les femmes, sur ceux qui se battent et les opprimés qui gagnent. Et j'ai trouvé aussi que dans une époque où on est tellement emporté dans, on n'a plus l'impression de savoir qui on est dans une société qui devient déshumanisée, c'est une grande leçon. Et c'est pour ça que je trouve que cet homme Galan qui a réinventé ses contes dans la société l'Ancien Régime qui était une société d'oppression, c'est un type génial. Et je l'aime. Et je voudrais que vous l'aimiez.
Ben merci beaucoup Irène Frein pour ce magnifique conte dans le conte.
Oui, c'est ça, absolument. D'une certaine façon, ça m'a échappé, mais c'est comme ça.
Lecture d'un extrait de L'or de la nuit. Le grand hiver. Au matin du septième jour de gel, un bruit court. Ce froid qu'on n'a jamais connu de mémoire d'homme est un châtiment du ciel. Et le prologue de la fin des temps. Si Dieu a mis 6 jours pour créer le monde, il peut aussi bien le détruire en 6 autres. Quoi ensuite? Les flammes de l'enfer? Mais l'enfer en y est déjà, et il est fait de glace. Tout s'est arrêté, les voyages, les mariages, les procès, les amours et les bals. Les théâtres ont fermé, les boutiques aussi, les rues sont vides. Et voici qu'en ce dimanche matin, c'est le cours du temps qui se fige. Le froid, dans la nuit, a disloqué les ressorts des horloges. Leurs aiguilles sont arrêtées à l'heure où la mécanique s'est enrayée, et comme les prêtres ont craint de voir les cloches se fendre au premier choc du battant contre leurs flancs, ils ont interdit de les faire sonner. On ne sait plus où on en est de la journée. Et comment s'en remettre au soleil? Le ciel est plombé, la neige tombe fine, asphyxiante. Lorsqu'elle cesse, c'est pour laisser place à une brumasse qui, elle aussi, coupe le souffle. Elle rôde un moment au-dessus de la Seine, long serpent de glace, depuis quelques jours. Puis, rue après rue, elle gagne la ville. Est-ce encore une ville? Dès qu'on sort, comme Galan, on tombe sur des charrettes où s'empilent des cadavres. On s'estime heureux de ne pas avoir buté dessus. Et partout, le silence. Sauf au moment où retentit une de ces déflagrations qu'on prend pour un coup de fusil, ou la détonation d'un pétard alors qu'on le sait bien, c'est le cri des arbres quand leur tronc se fend, toujours par le milieu, comme transpercé par l'épée d'un dieu vengeur. Les arbres, contrairement aux hommes, ne tombent pas. Ils attendent la mort, fiers et droits.
On dirait ces statues de martyrs qui s'alignent sous les porches des églises. Et la plaie qui déchire leur tronc est parfois si béante qu'on voit le jour à travers. Galant, chaque matin, a bravé le froid. Ce dimanche-là, comme tout le monde, c'est pour aller à la messe. L'église est pleine à craquer. Les haleines sont glacées. Le givre poudre les barbes. On a beau se coller les uns aux autres, on grelotte. Le curé de la paroisse a remplacé l'office du dimanche par une messe basse. Pas de chant, pas d'encens, pas de communion, ni de sermon, seulement des prières chuchotées à la hâte devant l'autel, où le prêtre a déposé deux braseros. Le premier est censé réchauffer les flacons, où il a déversé les huiles sacrées, et l'autre le calice et son vin de messe. Tout juste s'il dégèle. Le célébrant lui-même est transi. Pour garder la face, il multiplie les signes de croix. Les fidèles ne sont pas dupes. Ils sortent de l'église encore plus convaincus de l'imminence du jugement dernier. Galant n'est pas de cela. C'est toujours ainsi pendant les catastrophes. Il se trouve des gens pour voir plus loin que la fin. Il doit cette confiance à un lointain souvenir, celui d'un autre hiver. Il devait avoir 6 ans. Il gelait aussi à Pierrefendre et le pain manquait. Il s'était mis à pleurer. Pour le calmer, sa mère lui avait raconté qu'autrefois, après un hiver aussi rude que celui-là, il s'était produit quelque chose d'incroyable. Au moment du redoux, on avait découvert que les mulots, les rats et les chats avaient été décimés, mais pas les souris. Pourquoi ? Lui avait-il demandé. Elle devait s'attendre à la question. Sa réponse était prête. Parce que les souris ont beau être plus petites que les mulots, les rats et les chats, elles en demandent 100 fois plus à la vie. Il a tout de suite compris. Leur camp, à sa mère et à lui, c'était celui des souris. Il claquait des dents, il n'avait rien à manger, mais il survivrait. C'était ainsi, c'était écrit. Ils avaient survécu. Ce fut d'autant plus facile que 2 jours après lui avoir raconté cette histoire, sa mère, venue mendier sur le parvis de la cathédrale, réussit à apitoyer le fameux chanoine qui, plus tard, finança les études de son Benjamin. Ses enfants ne manquèrent de rien cet hiver-là. Galant crut longtemps, sa mère sur parole. Il fallut qu'elle meure, très âgée, étonnamment coriace, l'image même des souris dont elle lui avait parlé, pour qu'il s'interroge. Lors de son enterrement à Noyon, il questionna des vieux. Selon eux, s'il y avait des animaux plus doués que les autres pour résister au grand froid, ce n'étaient pas les souris. Mais les chats, sa mère avait tout inventé. Il ne lui en voulut pas. Au contraire, il jugea qu'elle avait bien fait puisque lui, le petit Galant, haut comme 3 pommes et sorti de rien, avait triomphé des innombrables épreuves qui avaient jalonné sa vie, dont le tremblement de terre. Selon lui, cette histoire de souris increvable y était pour beaucoup. Irène Frein a écrit en dédicace sur mon livre « À Sandrine, avec le grand plaisir de nos échanges au Mans. Cette quête éperdue de l'or de la nuit, le pouvoir réparateur des histoires. Amicalement, Irène Frein. » C'était ma rencontre avec l'or de la nuit d'Irène Frein.